Enfin, mon troisième et dernier invité est Michel Leterre. Alors, vous êtes une sorte de polymathe, vous avez un esprit universel, vous avez exercé dans... écrit sur des sujets très très variés, disons, hein. Donc vous avez été critique d'art, critique littéraire, vous avez écrit sur la littérature française, sur la philosophie, politique, éducation, culture, dictionnaire, des contes même. Donc voilà, et puis beaucoup sur le libéralisme francophone dont on va parler dans un instant. Vous êtes docteur ès lettres, vous avez enseigné au Collège international de philosophie.
Merci.
À l'Université de Paris 8 et à l'Institut d'études politiques de Paris. J'ai découvert aussi que vous aviez enseigné à la Courneuve, dans un collège situé au...
Au pied de la cité des 4000.
Oui, oui, d'accord.
Ce qui prouve bien que les libéraux se désintéressent des les pauvres et ont le cœur endurci. Ce sont des égoïstes.
Oui. Donc, je vois aussi que vous avez publié un plaidoyer pour la liberté des universités lorsque vous étiez chargé de mission au ministère de l'Éducation nationale. Mmh. Une lettre à Luc Ferry sur la liberté des universités. Alors, j'ai vu qu'elle était, c'était une grosse lettre, puisqu'elle fait quand même 243 pages.
Au sens ancien. Alors, à ce propos, j'ai eu une pensée émue en entrant dans ce studio rénové, puisque la dernière fois, j'avais eu la chance d'évoquer cette question avec le regretté Abbé Wartel, dont les auditeurs se souviennent. Et avec qui je partageais ce goût pour la liberté universitaire. Alors, l'abbé Wartel, c'est pas le prototype du libéral, hein, bien sûr, mais disons que c'est un homme de Dieu qui comprenait la problématique, je dirais, augustinienne de la liberté, auquel nous, libéraux, devons beaucoup, du reste. Et on avait cette sorte d'intimité, de complicité sur la liberté, lui, évidemment, n'affichant pas son libéralisme tacite, et moi, évidemment, l'affichant. Et Bertrand Lemenissier était avec nous. Hein. Donc, vraiment, à l'approche des fêtes, j'ai cette pensée pour l'abbé Wartel, qui vraiment hante encore cette maison, je le sens ici.
D'accord. Alors, j'étais en train de présenter notre invité, parce que c'est la première fois que nous l'invitons au Libre Journal des Économistes, Michel Leterre. Alors, vous avez écrit dans le livre fait sous la direction de Philippe Nemo et Jean Petitot, qui s'appelle Le libéralisme.
L'histoire du libéralisme en Europe, hein, qui est en fait la recension d'un séminaire.
Qui fait autorité.
Par Polytechnique et l'école supérieure de commerce de Paris.
Et qui montre que les idées libérales sont pas exclusivement anglo-saxonnes comme on essaie de nous le
faire. Je dirais même plus, elles sont avant tout continentales et
françaises.
Oui, c'est ça, et françaises d'abord.
Les physiocrates, voilà. Notamment.
Oui, alors on voit dans ce livre qu'il y a une grande richesse aussi italienne, suédoise, etc. Enfin, ça ne se limite pas à la France, mais comme
ça. Tout à fait. J'ai tendance, on serait que j'abuse à considérer Adam Smith, qui est toujours l'économiste qu'on nous renvoie, comme un économiste français. Parce que voilà un homme qui a un peu mon parcours finalement. Je dis pas que je vais aboutir à la richesse des nations au bout de carrière, mais quand vous regardez son CV, cet homme-là finalement, il est quoi? C'est un philosophe écossais. Déjà, il n'est pas anglais. Hein, qui enseigne la rhétorique, les belles lettres, hein, la philosophie. C'est un élève de Hume. Et puis, 10 ans avant sa mort, il n'a rien écrit sur l'économie. Et puis, il y a un fameux voyage en France où il rencontre l'école physiocratique, où il passe de salon en salon. Alors, il se fait tout petit, il écoute, il note. Alors là, moi, j'ai des témoins. J'en parle dans mon prochain livre, justement. Curieusement, on a ce gigantesque projet. Alors, évidemment, il ne fait pas part en long. Alors, on a perdu beaucoup de correspondances. Il aurait entretenu une correspondance avec Turgot, mais on n'en a pas la trace, vous voyez. Oui. Donc, beaucoup de choses ont dû être échangées sans qu'on en ait la trace. Et c'est très difficile de démontrer qu'il est un élève de l'école physiocratique, dont il a contesté certaines conclusions. Mais du moins, sur l'idée d'un ordre naturel qui ne doit pas être perturbé par l'interventionnisme de l'État, il est tout à fait en phase avec les physiocrates. Hein. Le laisser faire, le laisser passer. Du reste, comment vous dites entrepreneur en anglais? Comment vous dites laisser faire?
Entrepreneur.
Voilà, laisser faire. Donc, la langue anglaise est complètement envahie par des l'idiome français, non pas le contraire.
D'ailleurs, cette formule laisser faire, laisser passer a été remplacée par les socialistes par la formule laissez-nous faire, laissez-nous passer.
Oui. en force. Laissez-nous passer en force. Alors c'est justement l'objet de l'Institut Coppée, si vous voulez.
J'y viendrai. Oui, bah, allez, j'y viendrai. Vous avez écrit. Effectivement, vous êtes ici en tant que représentant de l'Institut Coppée. C'est Damien Taillet qui m'a. Et alors donc, vous avez écrit dans cette histoire du libéralisme européen, éléments pour une étude de l'école de Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de
l'école
alors
de
ça
Paris...
fait 80 pages dans ce livre qui est énorme d'ailleurs. Je crois qu'il en fait plus de 1400.
C'est l'article le plus long.
C'est pour ça aussi.
Il y en avait deux autres que j'ai dû un peu
réduire.
L'école de Paris. Je sais que cette appellation m'a été reprochée parce qu'évidemment, quand on pense à l'école de Paris, je suis également critique d'art. Mais je veux dire, école de Chicago. Vous avez une école en économie. Vous avez aussi une école en sociologie et voire en art, dans les arts artisanaux justement. Il y a plusieurs écoles de Chicago et ça ne gêne pas les Américains. Alors pourquoi école de Paris? Eh bien, c'est parce que au milieu du 19e siècle, autour de Frédéric Bastiat, qui est souvent présenté comme un loup solitaire, on avait un cerveau collectif. Vous voyez que les libéraux pouvons parfois être collectivistes quand il s'agit de penser, et que Bastiat ne sort pas...
Reconnaître la place
des groupes.
Il y avait Jean-Baptiste Say aussi.
Oui, alors Jean-Baptiste Say, c'est le père, hein, c'est le précurseur en quelque sorte. Mais ces économistes, je pense à Coquelin, je pense à Molinari, dont on va évoquer les soirées de la rue Salazar, étaient tous dans le même quartier, c'est-à-dire le quartier de l'ancienne Bibliothèque nationale, avec un éditeur qui se situait rue de Richelieu. Et voilà, donc il y avait un groupe basé à Paris, où tout se faisait à Paris. Ça n'est pas du parisianisme de dire cela, mais c'est un moment dans l'école française, si vous voulez, hein, que je fais débuter dans les années 1841, la fondation de la Société d'économie politique et du fameux journal des économistes, et que je fais arrêter à la mort d'Yves Guyot en 1928. Bon, on peut toujours contester ça.
Vos travaux actuels. Vous écrivez un livre.
Je vois perdu dans ma bibliographie.
Non, parce que elle est tellement abondante, disons. Donc voilà. Et vous allez publier en janvier 2015 aux Belles Lettres le premier tome d'un vaste ensemble qui s'appelle Le Capital. C'est très à la mode, Le Capital, entre Piketty qui fait Le Capital au XXIe siècle.
Sauf que ça fait 15 ans que j'ai commencé à travailler sur cette question et j'ignorais totalement qu'un livre intitulé Le Capital au XXIe siècle, qui ne parle pas du tout du capital, vous l'avez bien remarqué. Aller me servir en quelque sorte de tremplin. C'est sûr
vous savez qu'il a déjà gagné plus d'un million de dollars, alors je vous souhaite la même chance.
J'espère. Enfin, mon but était surtout de faire un volume de plus qu'un certain Karl Marx. Parce que je considère que le livre de Marx est obsolète, mais tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement la pensée de Marx est dépassée, sauf qu'il inspire encore les politiques travaillistes de nos gouvernements. Donc Le Capital de Marx, que personne n'a lu, surtout les marxistes, j'ai essayé de le lire et il y a dans ce livre
d'analyse... C'est pas passé là.
C'est illisible.
Voilà.
Mais Marx, dans une lettre à Engels, avoue lui-même qu'il faut faire gros, qu'il faut faire lourd, parce que c'est ce qui impressionne le public allemand. Donc,
j'ai l'impression que Thomas Piketty a lu cette lettre. Et que...
Exactement. Il a une stratégie littéraire. Donc,
700 alors, pages.
900, oui,
ça fait. Parce que là, le lecteur se décourage, évidemment.
Ça en impose, disons, on se dit.
Voilà, exactement.
C'est de la science.
Alors, il faut lire Marx. C'est là où peut-être mes faibles compétences en économie, qui sont doublées de fortes compétences en analyse de la littérature, puisque je suis docteur ès lettres, comme vous l'avez dit, me permet d'analyser le texte de Marx comme un poème.
Du Capital.
Et donc là, on se rend compte que ça n'est que réseau de métaphores, que figure de style que j'essaye d'analyser. Je crois que les économistes gagneraient à apprendre à lire un peu plus. C'est-à-dire que quand je parle de Smith, je lis La Richesse de la Nation. Quand je parle de Keynes, je lis La Théorie Générale.
Vous ne parlez pas des économistes libéraux, bien sûr, mais de ces nombreux faux économistes.
Si on veut les critiquer, il faut lire les œuvres et se rendre compte qu'elles sont vides du point de vue du contenu, mais qu'elles sont riches poétiquement. Et c'est ça la force des socialistes, on en parle. C'est qu'ils sont capables de frapper les imaginations par des figures, alors que nous, pauvres libéraux, nous n'avons que notre faible raison à opposer à cette poétique et ce déferlement de poétique du capitalisme.
Oui, d'ailleurs, si je vois sur la quatrième de couverture de ce livre, de ce premier tome, Le Capital, apparaître en janvier 2015 aux Belles Lettres, Vous mettez cependant le grand paradoxe du capitalisme qui n'a pas été forgé par ceux qui plaident la cause du capital, mais par ses ennemis. Et oui. Michel Letay entreprend alors de traquer le capitalisme au cœur de la poétique collectiviste dont l'étude permet de comprendre que le capitalisme n'est pas un système économique, mais un mythe qui a pour fonction d'imputer au libéralisme les maux causés par le socialisme. Ouais. Alors c'est très intéressant.
Exactement. C'est-à-dire que, alors je sais que je chagrine certains de mes amis libéraux qui me disent « Mais quoi, tu ne défends pas le capitalisme, etc. » Je dis « Je défends le capital. » Et le capitalisme, pour moi, est une fiction inventée par les socialistes contre le capital. Alors je ne vais pas faire l'argumentation ici, ça nous prendrait deux heures, mais j'essaie de l'esquisser dans ce premier livre du capital.
En fait, il y a deux capitalismes, c'est le capitalisme privé et le capitalisme d'État, parce que toute entreprise
est encore un capitalisme.
C'est-à-dire, est-ce que le commerce ne suffit pas finalement à désigner ce système que nous appelons
lorsque
capitalisme?
Lorsque vous avez spolié vos citoyens et constitué un capital, entre guillemets, est-ce encore du capital? C'est-à-dire, le capital n'est vivant que s'il est créé par des individus, des entrepreneurs, et qui peut être transmis aussi de génération en génération, alors qu'actuellement, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne transmet que la dette aux générations futures. Oui.
Autant le libéralisme est logiquement, disons, une doctrine, puisque finalement c'est une doctrine de la liberté, mais expliquant pourquoi est-ce qu'il faut
le libéralisme existe.
Et donc le libéralisme existe, autant le capitalisme n'a jamais été constitué en système que par opposition à un système inventé, disons, qui est le socialisme.
Le socialisme est un capitalisme d'État, c'est-à-dire les entreprises socialistes sont des entreprises qui appartiennent, les capitaux qui sont nécessaires à l'entreprise sont gérés par l'État.
Ça va nous entraîner trop loin. Pour moi, il ne s'agit pas de capitaux. C'est du capital mort en quelque sorte, parce que il n'est pas. Déjà, les investissements sont faits en fonction de fausses incitations. On va développer, comme vous l'avez très justement dit, des secteurs industriels comme le secteur écologique, coûte plus qu'il ne rapporte, et donc ces capitaux sont un capital normalement fait fructifier des projets innovants. Et là, ça n'est pas, pour moi, c'est un capital mort en quelque sorte, Marx parle de travail mort.
Donc je considère
qu'il ne s'agit pas, on peut pas, c'est un oxymore de parler de capitalisme d'État, si vous voulez.
Oui, d'accord, entendu. Alors, en tout cas, nous découvrirons tout ça dès janvier 2015.
J'espère que ça suscitera la polémique.
Dans votre livre, nous l'espérons. Vous écrivez aussi d'ailleurs beaucoup d'autres livres. Alors je crois que, je ne sais pas si vous m'autorisez à parler du fait que vous êtes dans une certaine urgence, je crois, dans le fait de...
Si vous le jugez nécessaire.
Vous êtes atteint d'une maladie qui vous pousse en tout cas à agir assez rapidement. Nous espérons, en tout cas, nous prions pour que vous ayez le temps et que ces nombreux travaux vous maintiennent le plus longtemps possible parmi nous. Vous écrivez aussi « Pour en finir avec le monopole de l'université ». Une histoire du libéralisme français en 20 volumes. Alors vous participez à cette histoire, vous?
Je vais entreprendre la rédaction des premiers volumes, mais sans avoir la garantie d'aller jusqu'au bout. Mais je me suis rendu compte qu'aucune histoire du libéralisme français en tant que telle n'a jamais été écrite. D'accord. Et je crois que avec les outils que nous avons, c'est-à-dire l'Institut Copet et d'autres instituts, le travail de recherche qui est fait, aussi bien par les sociétés de pensée américaines que par nos instituts, on a maintenant des éclairages que nous n'avions pas avant. Et là, il faut. Alors, si je n'y arrive pas, j'appellerai au secours. Et je commencerai. Le premier volume sera consacré à Bois Guibert, qui est le premier économiste libéral français et qui a inspiré les physiocrates français, donc les anglo-saxons.
Oui, d'accord.
Ce que les Américains reconnaissent aisément, mais ce qu'on a peine à reconnaître chez nous.
Alors vous écrivez aussi, je crois, en ce moment, l'orientalisme français prolégomène à une critique du mythe du choc des civilisations et l'histoire de la guerre mondiale. Donc vraiment, vous êtes très très...
Le système anticapitaliste est à la base du système, ce que j'appelle le système de la guerre mondiale. Donc ça, c'est une idée auquel étaient très attachés les économistes français du 19e siècle.
Il faut dire que...
On verra tout à l'heure.
Fred Attalion.
Bastiat a été ressuscité par les Américains.
Exactement.
Et c'est dans des traductions anglaises qu'on a appris que Bastiat était dans nos grandes écoles.
Il n'est même, il n'a même jamais disparu, je crois, de l'édition, des éditions anglaises et américaines.
Si, il a disparu pendant un moment. Oui, mais oui. Déjà, Henri Hazlitt, dans son Economic in One Lesson, l'économie en une leçon, reprenait juste après la guerre la fameuse fable de la vitre cassée de Bastiat. Mais sans qu'on ait réédité, alors ça a donné, comme ça a été un livre qui a eu un succès extraordinaire, qui a inspiré tous les libéraux classiques américains, je ne parle pas des liberals, qui sont les gauchistes aux États-Unis, on a commencé à se réintéresser à Bastiat. Il nous est revenu par les Américains. Enfin, vous avez dû connaître ces rencontres étonnantes.
C'est Florent Aftalion, l'homonyme de notre Fred Aftalion, ici présent dans ce studio, qui avec Henri Lepage, Jacques Deguenin, etc., ont découvert aux États-Unis en 1983, Frédéric Bastiat était là-bas très connu, très lu, au moins parmi les économistes.
La loi était le livre de chevet de Ronald Reagan, il a tiré à 1 million d'exemplaires, je crois.
Donc ils ont été très intrigués par ce.
Et on l'enseigne aux enfants. Là, j'ai une édition de Frédéric Bastiat expliqué au tout petit, en anglais, je ne dirai pas le titre, c'est extraordinaire.
Alors vous présentez ici l'Institut Copé pour éviter justement que ces de telles omissions puissent se répéter. Moi, ça fait très longtemps que j'ai envie d'inviter un représentant de l'Institut Copé ici, parce que je trouve que vous faites vraiment un travail extraordinaire d'aller exhumer des textes oubliés.
Oui, des travailleurs de l'ombre.
Oui, c'est ça, des travailleurs de l'ombre.
Benoît Malbranque, Stéphane Couvreur, tous ceux qui saisissent les textes.
Bien sûr, vous faites ce travail, et puis de traduction aussi, des résumés, des choses comme ça, de petites perles, en fait, qui sont vraiment extraordinaires. D'ailleurs, en ce moment, il y a une opération qui est menée, c'est une sorte de calendrier de l'Avent. Et Damien Taillet, qui est le président de l'Institut Copé, qui nous envoie chaque jour du 1er décembre au 24 décembre des petits textes qui se lisent comme ça en quelques minutes, mais qui sont à chaque fois. Alors, je sais pas qui on a eu Jacques Necker sur l'égalité. Je n'ai pas lu celui d'hier, celui d'aujourd'hui n'arrivera que ce soir, bien sûr.
Oui, tous les jours.
Tous les jours.
Alors pour ça, il suffit de s'inscrire sur le site
de l'Institut Copé.
C'est Institut Copé en un seul mot, Copé, COPET, .org. Mais si vous saisissez sur votre moteur de recherche favori Institut Copé, vous allez aboutir directement au site. C'est gratuit, tout ça. Vous pouvez.
C'est extraordinaire aussi, c'est-à-dire que
la générosité libérale.
Oui, c'est ça, tout à fait, la générosité libérale, puisque tous ces livres sont en PDF et peuvent être téléchargés directement. Alors si vous souhaitez les offrir,
ou
pour le confort de lecture, disons, vous avez toujours plus la possibilité de les acheter en ligne.
Sur Amazon.
Et puis pour faire vivre peut-être aussi.
Pour faire vivre l'Institut.
L'Institut, mais en tout cas, c'est vraiment une vraie mission de moine, disons, qui souhaite diffuser le plus largement possible la pensée libérale dans toute sa richesse. C'est-à-dire en allant vraiment, exhumer, des petites perles qui sont oubliées. J'ai lu récemment un livre sur Vauban, économiste, qui devait dater du début du XXe siècle.
Absolument passionnant. On va évoquer, mais je sais pas si c'est le
moment.
Puisque vous m'y avez autorisé, comme nous approchons de Noël, alors la hôte de l'Institut Copé est pleine. Et là, j'aimerais faire gagner à nos auditeurs un livre. On verra. J'aimerais poser une question. Je suis un auditeur assidu de Radio Courtoisie et j'apprécie beaucoup le libre journal de Philippe Dugue, le libre journal du cinéma. Et dans ce libre journal, on pose toujours une question absolument introuvable sur des chefs-d'œuvre cinéphiliques. Et là, j'aimerais poser une question.
Nous pourrions faire une petite coutume, d'ailleurs, c'est une très bonne idée, mais allez-y,
L'auditeur qui répondra à cette question gagnera donc une édition sur papier, non pas PDF, d'un livre de l'Institut Copé. Alors je pose cette question en espérant avoir la réponse avant la fin de l'émission.
Nos auditeurs sont très cultivés.
C'est une question énigmatique. Quel fut le premier économiste couronné par un prix Nobel? Quel fut le premier économiste couronné par un prix Nobel?
Est-ce qu'il n'y a pas un danger que les gens...
Ne donnez pas d'indice, Olivier Mérès.
Aille tout de suite sur Wikipédia.
Je suis pas sûr que ça soit... Parce que la question est posée de façon tellement...
Reposez-la une dernière fois pour qu'il n'y ait aucun doute.
Quel fut le premier économiste couronné par un prix Nobel?
D'accord. Et puis vous n'oublierez pas avant la fin de l'émission de donner la réponse.
Le... Quand même, oui, et puis surtout de noter le nom de l'éditeur qu'on puisse lui envoyer.
Oui, l'auditeur doit laisser ses coordonnées s'il a la solution.
Papier.
Voilà, d'accord, bien. Donc l'actualité de l'Institut Copé est aussi riche que celle de la LEP.
Vous voulez prendre contact dès ce soir avec les membres de l'Institut Copé, nous serons près de Sciences Po, où les étudiants libéraux sont très très actifs, du reste de plus en plus, ce qui peut-être augure d'un renouvellement des élites françaises. Au café, alors c'est à 19h30, c'est une conférence de Stéphane Gers de l'Institut Copé, intitulée « Qu'est-ce qu'une société libre ?» Ça recoupe un peu le sujet d'aujourd'hui, sur les interdits. Et ça aura lieu donc ce mercredi à 19h30 au café Le Rouquet, 188 boulevard Saint-Germain. C'est un café
à Paris, donc
oui, à Paris,
les auditeurs sont pas parisiens.
Le métro c'est Saint-Germain des Prés, et donc voilà, ceux qui ont cette idée, alors j'invite très largement, c'est-à-dire pas forcément les libéraux, ceux qui ont cette idée que le laisser faire c'est de laxisme, c'est le laisser aller, découvriront ici que pour nous une société libre c'est avant tout une société dotée de règles mais fondée sur le droit naturel, et non pas la permissivité qu'on nous attribue souvent à tort, voilà, ça c'est le libéralisme de mœurs qui n'est pas du tout le nôtre.
On va pas parler des soirées de la rue Saint-Lazare, de Molinari, ou de Guyot sur Calais.
Le coup, c'est-à-dire que...
Oui, bien sûr,
nous avons deux minutes
peut-être sur
Molinari, qui est un économiste belge, vous voyez, nous sommes ouverts quand même au monde entier. Qui a une importance considérable. Alors, on a réédité un livre qui est un peu mythique dans l'histoire du libéralisme francophone. C'est les fameuses soirées de la rue Saint-Lazare, parce qu'il a, comme il a été édité en 1849, dans une période d'anarchie en matière de dépôt légal, il n'était pas à la Bibliothèque nationale pendant longtemps. Il manquait toujours des pages. On devait parcourir les bibliothèques américaines pour les retrouver. Bon, enfin, Nicolas Bouzou a fait une première édition il y a quelques années, et nous avons ressaisi le texte, et voilà, on a enfin ce livre disponible. Alors, ce livre est extrêmement vivant comme introduction au libéralisme français, parce que il est présenté sous forme de dialogue. C'est le dialogue entre un conservateur, un socialiste et un économiste. Alors, il faut bien comprendre que l'économiste est nécessairement libéral à l'époque. C'est-à-dire, quand on dit économiste, ça veut dire le libéral. N'importe quel homme du 19e siècle, considérer qu'on peut parler d'économie alors que on est contre la liberté du commerce, on est pour l'intervention de l'État, on est pour la dette, on considère que la dette crée de la richesse, ça aurait paru tout à fait ridicule, non scientifique. Donc qui disait économiste à cette époque disait libéral.
D'accord, bien.
J'attends toujours ma réponse du reste.
Alors reposer une dernière fois la question peut-être.
La question était la suivante. Quel fut le premier économiste couronné par un prix Nobel de la paix? J'ai bien dit un prix Nobel. Fred Astallion a donné un indice tout à l'heure puisqu'il a évoqué le prix Nobel de la paix. Donc voilà, j'aiguille quand même.
Vous parlez de l'économie là.
Un économiste, mais qui n'a pas eu le prix Nobel d'économie.